invite à ouvrir votre Bible en 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 à 31. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 à 31. Verset 12, « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela ? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela ? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe ? Il était tout ouïe, où serait l'odorat ? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire au pied « je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimions être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous sont-ils le don des miracles, tous sont-ils le don des guérisons, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils ? Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Juste pour préciser, il n'y a plus d'apôtres aujourd'hui, et beaucoup de dons ont cessé, juste pour préciser. C'est la rentrée, vous avez remarqué ? Enfin, les parents surtout ont remarqué que c'est la rentrée. Et l'Église aussi a démarré sa rentrée, même si j'ai envie de dire que l'Église, normalement, n'a pas de rentrée. Il y a des vacances dans l'Église ? J'ai jamais lu un passage comme ça dans la Bible, mais bon. Voilà, il y a une rentrée. Et la question qu'on peut se poser à cette rentrée d'église, c'est quelle est ma part dans cette église ? Ou quel est mon don que Dieu veut pour moi dans cette église ? Alors, à l'heure où le chômage augmente, et de plus en plus dans ce monde, ben dans l'église, il n'y a pas de chômage. Enfin, moi, j'en ai jamais vu. Il y a des chômeurs, peut-être, mais là, ils forcent. Hein, mais il n'y a pas de chômage, en fait. Il y a du travail pour chacun. Quelqu'un écrivait « Dans le royaume de Dieu, le chômage n'existe pas, et si vraiment vous cherchez premièrement de tout votre cœur ce royaume et sa justice, alors vous n'avez pas de souci à vous faire, comme dit l'Écriture. » Il dit « J'ai reçu du Paul, P-A-U-L, emploi, pour l'emploi, apôtre, les offres suivantes. » Alors il y a du boulot. Hein. Alors on recherche notamment dans l'Église des ambassadeurs pour réconcilier les pécheurs avec le Seigneur, annoncer l'Évangile. On cherche des électriciens pour rétablir le courant d'amour entre les hommes. On en a besoin. On cherche des opticiens pour changer le regard des gens les uns sur les autres. Évidemment, il faut l'Évangile pour ça. On cherche des artistes peintres pour dessiner des sourires sur tous les visages. Il n'y a pas trop de sourires là ce matin. Hein ? Il y a du boulot, hein ? On cherche des maçons pour bâtir la paix. On cherche des jardiniers pour cultiver de bonnes pensées dans les cœurs. On cherche des profs de maths pour apprendre aux gens à compter les uns sur les autres. On cherche des médecins pour guérir les cœurs brisés et les corps malades. On cherche des informaticiens pour changer les logiciels de nos pensées. Et là, il y a du boulot. On cherche des guides pour montrer le bon chemin. On cherche des gendarmes pour former des gens d'armes. Vous voyez le jeu de mots. Avec les armes de l'esprit. Et tant d'autres métiers sont encore recherchés dans l'Église. Qu'est-ce que vous faites dans l'Église ? Je ne veux pas savoir. Mais posez-vous la question. Où j'en suis ? Quel est mon travail dans l'Église ? Et quand on y réfléchit bien, Dieu veut nous enrôler, veut nous faire travailler dans son Église. Et quel honneur, non ? Souvent on dit, il faut aller travailler. Donc en fait, ça devrait être un honneur et une joie de servir notre Dieu. J'aimerais qu'on apprenne justement à servir notre Dieu davantage, et on va voir les motivations du service pour Dieu. Deuxième temps, le service que je dois accomplir, et puis dans un troisième temps, les aptitudes aussi au service. Alors, pour servir, il faut être motivé, évidemment, et je pense que la motivation vient de Dieu. D'abord, il faut comprendre que le service, c'est pas le pasteur qui vous le demande, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu pour le chrétien. On peut lire dans Éphésiens 2, 10, Éphésiens chapitre 2, verset 10. Il est dit, verset 10, « Car nous sommes son ouvrage », ou en grec, on pourrait presque dire « poème ».« Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ » pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Vous étiez même pas nés, Dieu savait qu'il avait un travail pour vous. Extraordinaire quand on y pense et quand on y réfléchit. Servir, c'est un acte d'obéissance. Alors parfois on peut dire, je ne pêche pas, ou aujourd'hui j'ai pas pêché pour une fois, mais si je veux pas servir dans l'église, si je fais mon paresseux, je trouve pas ma place, quelque part je suis aussi en train de désobéir. Je suis l'ouvrage de Dieu, le poème. Mettez-vous devant la glace ce soir et regardez-vous dans la glace et dites-vous, je suis le poème de Dieu. Des fois, on va regarder nos petits boutons et nos trucs comme ça, mais oubliez ça une fois. Regardez la vraie valeur que l'on a devant Dieu. Vous êtes un chef-d'œuvre de la grâce. Jésus est mort sur la croix, il a accepté cela pour moi. C'est pas un chef-d'œuvre, ça? Nous sommes le chef-d'œuvre de la grâce, justement. Et Dieu a préparé des œuvres d'avance pour nous qui sommes sauvés. Ça veut dire aussi, s'il les a préparées, c'est qu'il m'a qualifié. Je peux le faire. Non seulement il m'a qualifié, mais il m'a rendu capable de pouvoir le servir. Je peux servir Dieu. Je peux le servir. Et des œuvres préparées par avance, afin que nous les pratiquions. Pratiquer, c'est pas rester statique. Pratiquer, c'est, dans le grec, c'est marcher, progresser. Donc il y a une action dans le service et continue. Ce n'est pas je sers une fois et puis c'est fini. Puis on peut dire que je vais servir aussi par reconnaissance. Souvent, quand quelqu'un vous a fait quelque chose de bien, vous allez le voir, vous lui amenez un gâteau, enfin, vous faites quelque chose pour lui, parce qu'il a été bon avec vous. Le chrétien, s'il s'arrête un petit peu et réfléchit d'où il vient, ancien condamné à mort, c'est ce que nous sommes, en tant que pécheurs, si on vraiment, un jour, je ne sais plus à qui, si on était vraiment devant l'échafaud, on comprendrait vraiment ce qu'est la mort. On a cette chance de ne pas être devant. Mais on est quand même d'anciens condamnés à mort, que Dieu a gracié. Qu'il a gracié. Donc, en tant que condamné mort, gracié, il devrait y avoir évidemment de la reconnaissance. Je suis sauvé par grâce, et il faut vraiment méditer la chance que nous avons d'être sauvés et de pouvoir être un jour avec le Seigneur. Luc 7, 47 dit, « C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Si je n'ai pas compris la profondeur de la grâce, j'ai aimé un petit peu Dieu, oh, il m'a pardonné quelques petits trucs. » Et quand on réfléchit vraiment que je devais mourir à cause de ces petits trucs, alors là, j'aurais peut-être plus de reconnaissance. Servir, c'est manifester physiquement son amour pour le Seigneur. Beaucoup de gens disent « j'aime le Seigneur », restent chez eux et ne font rien. Ça, c'est pas aimer le Seigneur. C'est une façon d'aimer le Seigneur, mais je veux aussi le manifester. Alors pas forcément qu'au travers du service, dans notre façon de vivre, mais le service manifeste physiquement cet amour pour mon Seigneur. Notre motivation, c'est servir pour imiter son maître. Jésus est le serviteur par excellence. Si vous avez lu l'évangile, je crois qu'il y a un modèle parfait. Et d'autant plus qu'il a été obéissant jusqu'à la croix et à la mort de la croix. Quelqu'un a déjà dû mourir pour servir, hein ? Vous ne seriez pas là. Mais bon, un jour, peut-être que, on ne sait pas ce qui va se passer en France, le Seigneur permettra, et il le permet déjà dans notre pays, qu'il faille aller jusqu'à la mort à cause de Dieu. Il faut s'y préparer aujourd'hui. Jésus, lui, quand il est venu servir. Dans Marc 10, 45, il écrit « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Quand on se souvient qu'il était avec Dieu, en pleine gloire, servi par les anges, etc., et qu'il a accepté de s'abaisser pour devenir serviteur. Il aurait pu très bien dire « Écoutez, je suis Dieu, c'est vous qui devez me servir. » Il aurait pu le dire, et il avait le droit de le dire. Mais il a accepté de s'abaisser et de venir nous servir. Et donc, lui ne s'est pas fait servir, et si lui ne s'est pas fait servir, il nous donne quelque part aussi un exemple. Il a un modèle. Et s'il est modèle, je dois le contempler, je dois l'analyser, je dois le comprendre, l'admirer peut-être comme un chef-d'œuvre, comme un tableau qu'on regarderait. Et évidemment, on peut l'admirer et comprendre seulement si on lit sa parole, et si on essaie de lire les évangiles tout particulièrement. Un disciple est censé imiter son maître. Il est censé imiter son maître. Et mon service, ce que je veux faire dans l'Église, doit évidemment imiter ce que Jésus a fait dans tout l'ensemble du service, l'amour, la façon de faire, etc. Et il y a tellement de choses à apprendre. Notre motivation, c'est que je suis un membre du corps. Et on peut lire dans 1 Pierre chapitre 2, versets 4 à 5. 1 Pierre chapitre 2. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu, par Jésus-Christ. On peut lire aussi dans Corinthiens 12, 14, « Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. » Je suis, en tant que chrétien, membre d'un corps. Évidemment, le corps, c'est l'Église, le corps de Christ. Et Dieu m'a choisi, moi, vous, comme une pierre vivante, et qui a quelque chose à faire dans ce corps. Là encore, quel honneur que Dieu ait pu me choisir, moi, parce que moi, qu'est-ce que je suis ? Je suis pas grand-chose, en fait. Hein. Je suis un chrétien comme les autres, mais Dieu m'a choisi. Et il dit des pierres vivantes. On a des pierres dans nos bâtiments, je ne sais pas si c'est que des pierres là, mais généralement, elles se reposent, hein, enfin, elles nous protègent. Mais là, c'est des pierres vivantes. Et le mot vivant, ça nous rappelle l'action. On ne fait pas seulement partie d'un corps, mais on est ici en train de vivre dans ce corps et d'agir. Et justement, au travers du service. Le chrétien n'est pas inactif. Le chrétien n'est pas statique. Il doit édifier la maison spirituelle. Et ça, c'est valable pour chacun d'entre nous, si nous sommes nés de nouveau. Le corps est formé de plusieurs membres. Christ est la tête, et nous, eh ben, on est le corps qui suit derrière, tout simplement. Et si Christ est la tête, il veut aussi nous faire bouger. Il veut nous faire travailler. Lui œuvre tous les jours. Pas besoin de nous, hein. Des gens se convertiraient et se convertissent encore sans nous. Pas besoin de nous. Mais il veut que l'on participe, justement, dans ce corps. Et si un membre du corps ne fonctionne plus, eh ben, souvent, c'est tout le reste du corps qui souffre. Enlever une dizaine de briques dans cette maison pendant l'hiver. Qu'est-ce qui va se passer? Elle est en froid, hein. On va mettre le chauffage un peu plus à fond, mais je vous enlèverai d'autres briques, alors. Mais oui, mais c'est exactement la même chose dans le corps de Christ. Si je ne sers pas, si je ne trouve pas ma place, là où Dieu m'a placé, il y a un petit dysfonctionnement quelque part. Il manque quelque chose, tout simplement, à ce corps, ou à cette maison. Et le Seigneur veut justement que chaque pierre soit à sa place, avec le rôle que Dieu lui a donné, et c'est ce qu'il désire. Il ne veut pas qu'on serve pour servir. Ça n'intéresse pas. Il veut qu'on soit là où il veut, et qu'on fasse ce que lui, il nous demande. Et une dernière motivation, c'est d'abord de comprendre que le service, c'est la vocation du chrétien. On est chrétien, on est né de nouveau, et dans Éphésiens 2, il dit on est sauvé par grâce, pas par les œuvres. Mais après, il continue, ok, vous êtes sauvé, mais maintenant il y a du travail. C'est gratuit, certes, mais c'est notre vocation que de servir. Dans l'Ancien Testament, quand on essaie de voir un peu ce qu'est les serviteurs, hein, on reconnaissait le serviteur de l'Éternel dans le sens où c'était quelqu'un qui adorait en fait Dieu. En fait, quand quelqu'un adorait Dieu, dans l'Ancien Testament, c'est quelqu'un qui était à son service, tout simplement. Souvent, on veut adorer Dieu le dimanche matin dans la musique, etc., et on croit que c'est ça l'adoration. Enfin, c'est une part de l'adoration. Mais l'adoration, c'est le service, c'est le quotidien. Ce que je fais et qui plaise à Dieu. C'est aussi affirmer l'entière dépendance de lui. Hein. Je vis et je travaille pour Dieu. C'est mon Dieu, il m'a sauvé. C'est pourquoi le mot, hein, souvent « service » dans la Bible, est essentiellement a essentiellement une signification cultuelle, liée souvent au culte. Hein. Vous verrez les sacrificateurs et tout ça, ils étaient au service de Dieu. Et donc, un service a une pensée quelque part de servir tout simplement Dieu. Autrefois, c'était la vocation d'Israël de servir Dieu. Ils l'ont fait, enfin, plus ou moins bien, on va dire. Mais aujourd'hui, nous avons la nôtre de vocation. Et nous devons servir le Seigneur le mieux possible. Si je veux trouver de l'énergie pour mon service, parce que c'est souvent ce qui nous manque, eh bien, il faut comprendre le salut. Je crois qu'il faut le comprendre, l'apprécier dans sa profondeur. Et une fois que j'ai compris cela, alors je vais avoir de la joie et je vais avoir de la reconnaissance. Et quand je suis plein de reconnaissance, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Souvenez quand vous étiez jeune chrétien, hein, on était partout à annoncer Jésus-Christ, on voulait servir, on voulait travailler. 20 ans plus tard, fatigué. Pourquoi? Il faudrait qu'on retrouve notre jeunesse d'autrefois. Et c'est souvent parce qu'on oublie qu'on a été sauvé et qu'on était autrefois pécheur, condamné, et que le Seigneur nous a graciés. Il faut s'en souvenir tous les jours. Une deuxième chose par rapport au service, c'est que j'ai un service à accomplir dans l'Église. On l'a vu, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. D'abord, on peut avant réaliser peut-être que je sers de toute façon quelqu'un. Alors, je peux me servir moi-même, par mon égoïsme, par mon mensonge, en me disant « je suis pas capable de faire quoi que ce soit dans l'Église ». Menteur. Vous faites Dieu menteur, là. Puisqu'il vient de dire qu'il a un service pour vous, il a une place pour chacun d'entre vous. Donc, si je pense ça la prochaine fois, que je suis un incapable, dites-vous, vous êtes un menteur, tout simplement. Ou une menteuse. C'est dur ce que je dis, peut-être, mais c'est vrai. C'est vrai. Alors, ou la paresse, peut-être, hein, qui est là, et j'ai pas envie de travailler, j'ai trop travaillé dans la semaine, c'est vrai. On va mettre un équilibre tout à l'heure, quand même. Alors, le diable aussi est là, parce que lui, il veut me faire désobéir, et en même temps, quand il me fait désobéir, quelque part, il bloque le corps de Christ. Il empêche, le corps avance parce que Dieu est plus fort que moi, mais quand même, quelque part, c'est à méditer. Je bloque tout simplement le corps de Christ et son travail. Ou alors peut-être il y a des dieux, des idoles. Alors vous allez me dire, le chrétien n'a pas de dieu ou d'idoles, certes, mais autrefois c'était le péché quand même d'Israël d'aller toujours idolâtrer, d'aller vers d'autres dieux alors qu'ils avaient le vrai et véritable Dieu. Aujourd'hui, on n'a peut-être pas, on ne va pas s'incliner devant une idole, mais on a d'autres choses dans notre tête qui prennent souvent la place de Dieu, et ça, c'est des idoles, hélas. C'est des idoles. Ou enfin, et là c'est ce que je préfère, c'est quand même servir Dieu par mon obéissance et en prenant tout simplement la place dans le corps. Mais avant même de vouloir peut-être servir, il faut que je prenne conscience de ce qui m'empêche de servir, parce que sinon j'avancerai jamais. Il faut vraiment que je prenne conscience de ce qui me bloque, de toutes les excuses que je peux trouver parfois pour servir dans les églises. Deuxième chose, comprendre les ennemis de mon service. Alors parfois, certains n'ont pas compris qu'une fois qu'ils sont graciés, ils doivent normalement servir le Seigneur. Mes connaissances peut-être aussi des conséquences, parce qu'un jour, on sera non pas devant un tribunal pour être jugé pour le salut, parce qu'on est sauvé, à condition qu'on soit né de nouveau, évidemment, mais on sera devant le tribunal de Christ, et selon le bien et le mal que j'aurai fait dans mon corps, j'aurai des récompenses ou pas. Or, aujourd'hui, c'est loin, le tribunal de Christ. Dans nos têtes, c'est quoi? C'est flou. Mais demain, on peut y être. C'est ça le problème. Et on sera évalué non seulement pour notre vie, ce qu'on a fait de cette nouvelle vie, mais certainement aussi pour ce que j'ai fait pour le Seigneur durant cette vie. Il ne s'agit pas de se dire « je vais faire beaucoup, 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 beaucoup de choses ». Ce n'est pas ça que Dieu demande. Il demande simplement de faire ce qu'il nous demande. Je peux avoir une mauvaise image de moi, et ça c'est souvent le cas, et Dieu se sert aussi de gens imparfaits. Heureusement, qui est parfait ici? Ça va, merci. Personne. Personne n'est parfait, et donc ça veut dire qu'il se sert de nous, qui sommes imparfaits. Et si je me dis ça, la prochaine fois que tu penses que Dieu ne peut pas se servir de toi, alors rappelle-toi que Noé se saoulait. Enfin, s'est saoulé au moins une fois. Abraham était trop vieux pour servir. Isaac était un rêveur. Jacob était un menteur. Léa, excusez-moi, était laide, enfin, les yeux. On a trompé Joseph, par exemple. Moïse bégayait. On dit, je ne peux pas parler, je bégaye. Gédéon avait peur, Samson avait les cheveux longs et était un coureur de jupons, Rahab était une prostituée, Jérémie et Timothée étaient trop jeunes, David a eu une liaison et était un meurtrier, Élie a voulu se suicider à un moment, Ésaïe a prêché tout nu, Jonas s'est enfui de devant la face de Dieu, Naomi était veuve, Job a fait faillite, Jean-Baptiste mangeait des bestioles, Pierre a renié Christ. Les disciples se sont endormis pendant qu'ils priaient, à Gethsémané. Marthe s'inquiétait de tout. La femme samaritaine était divorcée plus d'une fois. Zachée était trop petit, Paul était trop religieux, Timothée avait un ulcère, et Lazare était mort. Qu'est-ce que vous avez de pire que ça? Alors, il n'y a pas d'excuse, je crois, pour servir le Seigneur, tout simplement. On est comme on est, et le Seigneur va s'occuper de nous avec nos incapacités. Il va s'occuper de nous, et va nous faire trouver un service. Par contre, je peux aussi trop servir. Et ça existe dans les églises où je veux absolument tout faire. Tout, 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 tout. Et je veux être partout. Peut-être pour dominer. peut-être pour l'orgueil, hein, c'est bien d'être devant, c'est pas si bien que ça en fait, hein. Ou alors peut-être certains vont fuir leur foyer, parce que à la maison ça va pas, alors je vais servir dans l'église, comme ça au moins j'ai la paix. Et il y a un équilibre à avoir. Le Seigneur ne nous demande pas de trop servir ou de ne pas servir du tout, il nous demande simplement de se mettre à genoux un jour et dire « Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Ou alors, l'ennemi encore de mon service, c'est le manque de discipline, peut-être, et mes priorités. Alors, je veux servir le Seigneur, mais j'arrive pas à organiser ma semaine. Et il y a toujours, je suis débordé. Mardi soir, on est en train d'étudier la discipline. Bonne occasion d'apprendre, je crois. Mais on peut apprendre. Il faut simplement faire le ménage dans notre agenda et voir ce qui est prioritaire ou pas. Est-ce que le service pour le Seigneur est prioritaire ? Je pense. Il ne doit pas prendre toute la semaine non plus. Il y a un équilibre. Et si vous servez de trop, moi, je vous mets dehors. C'est vrai. Parce que je ne serai pas en train de faire la volonté de Dieu pour vous. Et puis, un service pour tous, ceci nous dit la Bible. Alors, il faut l'identifier, ce service. Alors, dans Romains 12, 16, il est dit, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Des dons différents pour chacun d'entre vous. Maintenant, c'est à moi d'aller chercher ce don, d'essayer de comprendre quel est ce charisme que le Seigneur veut pour moi, pour chacun d'entre vous. Pas que pour moi, pour chacun d'entre vous, Dieu veut quelque chose, veut un service de votre part. La Bible, on l'a lu tout à l'heure, il a dit, il y a diversité de dons, il y a plein de choses à faire. Et donc, Dieu a vraiment quelque chose pour moi. C'est pas juste comme ça, flou. Et 1 Corinthiens 12:31 dit, aspirez aux dons les meilleurs. Alors, le meilleur, c'est évidemment de faire ce que Dieu veut que je fasse ou que je pratique. Donc, il faut, avant même de vouloir servir, avoir le désir de servir. On a vu les motivations pour servir. Il faut les travailler dans notre vie, et surtout la reconnaissance. Et alors, j'aurai le désir, tout simplement, de servir. Et une fois que j'ai commencé à servir, une fois que j'ai servi, je suis content, on s'arrête là. C'est fait, c'est réglé pour la vie. C'est ça ? Non. Je crois que je suis appelé à servir toute ma vie, à entretenir ce service. Dans 1 Pierre 4:10, on met le service et les dons pour l'autre. C'est-à-dire que moi, si j'ai un service, ça sera pour vous, réciproquement. Si je prêchais à mon lapin ce matin en haut, ça ne vous servira à rien. Eh bien, d'accord. Mais vous avez aussi un service et il n'est pas pour moi, il est pour l'autre le service. Je sers toujours mon prochain. Dans 1 Timothée 4:4, Paul dit à Timothée justement de ne pas négliger le don qu'il a. C'est-à-dire qu'il doit l'exploiter. C'est pas parce qu'on a un don que ça y est, ça vous tombe tout cru dessus. Je prépare mon message. Je prépare mes réunions. Ou vous préparez ce que vous allez faire. Ça ne tombe pas tout cuit non plus, mais je dois l'exploiter, je dois travailler, je dois en prendre soin. Et le Seigneur va nous aider aussi à travailler dans ce sens-là. Il faut ranimer ce don, nous dit 2 Timothée 1:6, c'est l'idée de faire l'effort de servir. Servir est un effort. Il faut de temps en temps que je me bouscule pour pouvoir me mettre au service pour mon Seigneur. Donc Dieu dit que je suis important dans son Église. Chacun d'entre vous, vous êtes important, vous le saviez ? Très important. Alors, on ne va pas tomber dans l'orgueil. Il y a une limite juste avant, mais comprenez que vous êtes important pour le Seigneur, et tout particulièrement dans son service. Et il me veut, c'est beau ça, il me veut dans la construction de son Église. Vous n'êtes pas fier un peu ? Non, pas trop. Il y a de quoi quand même être fier. Honnêtement, il y a de quoi être fier. Dieu, là, en haut, là, grand comme il est, il veut se servir de nous, le tout simple homme que nous sommes ou femmes, et il veut se servir de nous pour la construction de son Église. C'est extraordinaire. Le jour où vous avez compris ça, vous avez commencé à servir, à mon avis. Vraiment. Et puis une troisième chose, les aptitudes au service de Dieu. Alors il y a un premier constat qu'on va faire, c'est que c'est Dieu qui rend apte à servir. Personne n'est apte à bâtir l'Église de Jésus-Christ. Je ne suis pas capable personnellement de le faire. Et c'est formidable parce qu'on est tous au même niveau dans ce cas-là. Personne ici n'est capable de construire l'Église de Jésus-Christ. Personne. Mais c'est Dieu qui va nous rendre aptes à bâtir cette Église. Sans Jésus, je ne suis rien. Je suis absolument rien. Si le Seigneur ne me fortifiait pas, ne m'encourageait pas, s'il me laissait tomber, je serais loin, je ne sais pas où, dans un désert, enfin là-bas, quoi. Lui, il veut me former. Il veut me soutenir. Il veut m'encourager dans le service. Formidable. Non seulement il me demande de servir, je ne sais rien faire, mais en plus à servir. C'est tout cuit, tout ça, en fait. C'est formidable. Il va m'aider à servir, et dans 1 Corinthiens 4:7, il dit qu'on a tout reçu de Dieu. Ce que je suis capable de faire dans l'Église, ce n'est pas grâce à moi, c'est parce que Dieu me rend apte à pouvoir le faire. Et quand parfois l'orgueil vient là en disant « Waouh, qui a prêché ce matin ?» Non, non, c'est Dieu qui t'a rendu apte à le faire. Ou j'ai servi là et là, et puis l'orgueil qui est là. D'autres veulent même régner, parce qu'ils savent faire beaucoup de choses dans l'Église. Et j'ai vu ça, hélas. Mais c'est Dieu qui les rend aptes à le faire. Où est l'orgueil, en fait? Où est-ce qu'on peut se dire « C'est grâce à moi que les choses se font ?» Si Dieu veut l'enlever, il l'enlève. C'est vite réglé, là. Donc j'ai tout reçu de Dieu et il me rend apte à le servir. Et chaque réussite dans l'Église vient de Dieu. Dans Luc 17, 5 à 10, il est dit, juste verset 5, « Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. » Tout simplement. Ça ne signifie pas que Dieu n'a pas de reconnaissance à notre égard. Il nous encourage, il nous félicite même peut-être des fois. Mais il faut quand même avoir cette attitude dans notre tête. Nous n'avons fait que ce que nous devions faire. Jésus n'a fait que ce qu'il devait faire, quand on y réfléchit. Serviteur, parfait, mais il allait quand même jusqu'à la croix. Et c'est comme cela qu'on doit aborder le service. Je suis incapable de faire quoi que ce soit pour le Seigneur, ou du moins je dois me laisser transformer par Dieu. Il va me rendre apte à servir. Donc si j'ai l'excuse de me dire je ne suis pas capable de faire quoi que ce soit dans l'Église, encore une fois, vous mentez. Parce que c'est Dieu qui va vous transformer et qui va vous aider. Évidemment, au travers de chacun de nous, on peut aussi s'encourager les uns les autres, se former, etc. Un deuxième constat, c'est que je suis apte à servir durant toute ma vie. Regardez Daniel, il est là ce matin. Il sert. C'est un encouragement pour moi. Je ne veux pas non plus, mais il est là. Il n'est pas tout jeune non plus. Il y a plus âgé, je crois. Mais je suis apte à servir durant toute ma vie. Est-ce qu'il y a un âge pour commencer à servir? Samuel a été appelé jeune, avec Élie. Il a commencé à servir très jeune. Parle, car ton serviteur écoute. Il s'est présenté devant Dieu comme un serviteur. Et ensuite, évidemment, on sait qu'il a servi durant toute sa vie. Et quel beau service! Il n'y a pas un âge minimum ou un âge trop grand pour servir le Seigneur. À partir du moment que je suis né de nouveau, et si je nais de nouveau quand je suis jeune, eh bien je suis apte au service, avec mes capacités à ce moment-là. Ou même si je suis trop âgé, eh bien, la prière. La prière, c'est un service. J'ai déjà dit peut-être, sur Arles, on avait un couple, on ne les voyait pas bouger dans l'église quelque part. On se dit, ils ne font rien. Et chaque matin, il priait pour l'Église, chaque matin, tous les jours. Ça, c'est un beau service, parce que la prière, c'est important. Si peut-être je ne suis pas manuel, si je ne suis pas capable de beaucoup de choses, la prière, elle est là. Ça, tout le monde peut le faire. Bon, on est appelés tous à prier normalement, mais certains peut-être prient davantage, et c'est tout simplement leur don ou leur capacité, ce que Dieu veut pour eux. Mais la prière est possible pour tous. Si je me sens incapable de faire quoi que ce soit déjà là, peut-être physiquement ou je ne sais pas, vous pouvez prier pour l'Église. Pour les uns et les autres, pour ceux qui sont malades, etc. Troisième constat, on va voir là plusieurs mots qu'on trouve dans la Bible, dans le grec, c'est « j'ai un ministère et je dois le comprendre ». Dieu m'a donné un ministère, m'a donné un service, et il faut d'abord que je comprenne avant de le pratiquer. Alors on peut trouver le verbe « diakoneo » qui dit « je dois servir », le verbe c'est « je vais servir ». Alors c'est un service aux tables, selon Marc. C'est aussi pourvoir aux besoins d'une personne, s'accomplir des services dans une assemblée. Enfin, vous voyez que servir, c'est assez large, la palette est assez large. Et on a suffisamment de travail dans cette église pour trouver un endroit où servir. Le verbe rappelle en fait l'action et le travail pour Dieu. C'est agir comme Christ, lui, est en train d'agir. Un deuxième mot qu'on rencontre, c'est diaconia. Enfin, on connaît un peu, il y a des hôpitaux qui ont souvent ça. Alors c'est pareil, il est employé pour le service des tables, pour la collecte, pour le service des saints, pour l'annonce de la parole. Donc j'ai une activité à exercer en tant que disciple. J'ai une diaconia à faire et la question c'est quelle est cette diaconia, quel est ce service que je peux rendre à mon Seigneur. Puis il y a le mot diakonos, ouais, c'est toujours la même racine, le serviteur tout simplement. Toujours celui qui sert à table, ou c'était aussi le serviteur en général. On parlait aussi d'un diakonos. Le mot a généralement un sens spécifiquement chrétien pour Paul. Quand il en parle pas comme un serviteur banal, mais plutôt avec l'idée dans l'Église. Hein. Alors on rencontre par exemple le serviteur de la Nouvelle Alliance, on voit le serviteur de la justice, serviteur de Christ, serviteur de Dieu, serviteur de l'Évangile ou serviteur dans l'Église ou de l'Église. Ça touche vraiment l'Église quelque part et le travail pour Dieu. Il désigne aussi ceux qui l'assistaient dans son service. Par exemple, il parle de Tychique à un moment dans Éphésiens, et il en parle comme d'un serviteur. Il était là pour s'occuper de lui. Et être serviteur, finalement, d'après ce mot, c'est pas attendre d'être servi. Vous aimez bien vous faire servir ? On aime bien. Hein. On va aller près, des petits massages, là. On aime bien être dorloté. Mais le mot nous rappelle que c'est pas le dorlotage, c'est moi qui sers l'autre. Je me mets à disposition de l'autre. Et ce n'est pas simplement parce que je veux le faire, mais c'est parce que c'est mon identité en tant que chrétien qui m'impose cela. Je vais vers les autres et je vais servir mon prochain. Et puis le mot diaconos est aussi employé pour parler des diacres et diaconesses. Alors le mot est utilisé pour une certaine catégorie de personnes et de serviteurs dans l'Église. Hein, alors les diaconesses, hein, vous voyez ça dans Actes 6 et 1 Timothée 3. Ils sont élus sur critères. Alors on n'est pas diacre parce qu'on a envie d'être diacre. Il y a toute une liste qu'il faut respecter, comme pour le pasteur ou les anciens. Et ils sont élus par l'Église pour se mettre au travail. Autrefois, les apôtres voulaient annoncer l'Évangile, mais s'occuper aussi des gens. Et à un moment, ils étaient burn-out, comme on dit aujourd'hui. Et donc, ils ont proposé que l'Assemblée choisisse parmi eux des diacres qui servent justement là où ils ne peuvent pas servir. Et donc, on a organisé l'Église de telle façon, et l'Église a bien fonctionné. Ils servent généralement le pasteur, ou les évêques, ou le mot ancien aussi là, hein, c'est la même chose. Ils sont serviteurs de l'Église, mais avec des services plus spécifiques que les autres, avec des responsabilités aussi. Donc, tous ces mots, ces aptitudes que le Seigneur nous donne nous rappellent que nous sommes des chrétiens, mais un chrétien équivaut aussi à être un serviteur qui est apte à servir, mais ça ne dépend pas de moi, ça dépend totalement de Dieu. Alors on peut servir, non ? Non ? Ça ne dépend pas de vous, ça dépend de Dieu. On peut servir, je crois. Ouais. Je vais terminer avec 1 Corinthiens 4, 1 à 2 qui dit « Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs ou administrateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. » Le Seigneur nous donne un travail, nous donne à administrer son Église d'une manière ou d'une autre, et ce qu'il attend, c'est notre fidélité dans ce domaine-là. C'est pas simple toujours d'être fidèle dans ce domaine-là, mais c'est possible, puisque le Seigneur nous le demande, et il nous a jamais demandé de faire quelque chose qu'on ne peut pas faire. Donc, je suis un administrateur de cette église ici sur Étréchy. J'ai ma part, j'ai mon rôle dans ce travail. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui, mais qu'est-ce que je fais maintenant pour cette église ? Alors, si vous ne savez pas, vous pouvez prendre le temps de prier. Pas une fois, parce que vous avez le désir vraiment de servir Dieu. Je crois que ça sera quelque chose de récurrent. Vous pouvez aller voir le pasteur et lui poser des questions. Vous pouvez aller voir peut-être les autres frères. Et leur demander, mais qu'est-ce que je pourrais faire ? J'irais même, pourquoi pas essayer des fois quelque chose par les enfants ou je sais pas. Essayer pour voir. Peut-être qu'en le faisant, d'un seul coup, ça me plaît. Il y a mille et une manières pour se mettre au travail. Ça ne veut pas dire que je vais servir tout de suite, mais trouver ce que Dieu veut pour moi, ça demande un peu de temps. Je me souviens quand j'étais sur Arles, vous ne connaissez pas la personne, donc ça va, il y a un jeune qui chantait faux. Alors, comme une casserole. Mais alors vraiment, non, mais là, voilà, j'ai jamais entendu ça, quoi. Et je faisais la chorale à l'époque, et il vient vers moi et me dit « J'aimerais faire partie de la chorale. » Voilà, vous n'avez pas quoi dire, vous avez l'air faim. Il dit « Écoute, Dieu veut se servir de toi. Il veut se servir de toi. » Et j'ai dit « On va prier pendant un mois, toi de ton côté et moi de mon côté. » Mais Dieu a parlé à son cœur. C'est ça qui est formidable, parce qu'il est revenu un mois après. J'étais en train de trembler. Moi, je dis « Oui, oui. » Il dit « Ouais, je crois que le Seigneur m'a montré que je ne suis pas fait pour le chant. » Et ce jeune, finalement, après, c'est un peu comme le comité missionnaire, c'est lui qui s'est occupé de ça, et le faisait vraiment très bien. Il a trouvé sa place, mais il a pris le temps de chercher, de prier, et peut-être même de s'entourer pour servir, tout simplement. Il s'est pas arrêté en se disant « Ah, je sais pas chanter, j'aimerais bien chanter ». Non, il a cherché ce que Dieu voulait, tout simplement, pour lui. Et Dieu veut exactement la même chose pour nous. Un jour, le Seigneur va évaluer notre service. Il ne va pas évaluer notre activisme. Parce souvent, on croit que parce qu'on fait plus, on sera plus récompensé. Pas du tout. Complètement faux. Mais il va nous récompenser sur la motivation de ce service. Pourquoi je le fais ? Pour ma gloire, pour mon orgueil, ou pour l'amour du Seigneur ? Par reconnaissance, par fidélité à ce qu'il me demande. Quand même des motivations différentes, là. Le Seigneur connaît notre cœur. Parce que je peux me servir, au travers de l'Église, ou le servir. Et beaucoup de gens se servent eux-mêmes, pour la gloire, pour sa propre gloire. Mais on peut le servir avec beaucoup d'humilité. Mais ça, ça demande de se laisser transformer par le Seigneur. Beaucoup de gens qui veulent devenir pasteurs. Voilà, moi, si je pouvais m'en aller, je serais bien content des fois. Mais le Seigneur a travaillé ces gens-là. Il travaille chacun d'entre nous, pas forcément pour devenir pasteur. Pasteur, c'est pas mieux que autre chose. Moi, je suis au niveau de tout le monde. Je fais le travail que le Seigneur me demande. On est d'accord. Il n'y a pas... Mais on essaie de faire ce que le Seigneur veut faire. Et pour cela, il va nous former pour servir. Il m'a formé et il va encore me déformer. Parce qu'il forme et il déforme aussi. Alors, est-ce que je suis prêt à servir le Seigneur ? J'ai envie de retoucher vos manches, les manches là. Vous voulez servir le Seigneur ? Ouais, pas tout le monde. On recommence le message ? J'espère que dans votre cœur, vous allez prendre le temps de réfléchir à cela, parce que c'est pas moi qui vous le dis, c'est le Seigneur, c'est votre parole, c'est la parole de Dieu, pardon. Il demande simplement qu'on retrouche nos manches, qu'on prenne le temps de prier pour ceux qui n'ont pas encore trouvé leur place, de venir peut-être me voir ou voir d'autres frères et poser la question, et on peut prier ensemble, mais pas se dire, bon, ben voilà, j'ai compris, et puis je m'en vais, et c'est fini. Parce que je reviendrai avec ça dans quelques mois. Donc je vous oublierai pas. Et le Seigneur non plus ne vous oublie pas. Au-delà du rire, le Seigneur nous demande sérieusement de nous mettre au travail. Et ça va faire grandir l'Église, ça va réjouir notre Seigneur, et qui sait, cette Église va grandir encore davantage. Je vais terminer sur ces paroles de John Wesley qui disait « Fais tout le bien que tu peux, par tous les moyens possibles, dans tous les lieux possibles, chaque fois que tu en as la possibilité, à tous les gens possibles, aussi longtemps que tu pourras. » John Wesley qui dit « Fais tout le bien que tu peux, par tous les moyens possibles. » Mais je répète, en fait, ce que je viens de dire. Donc, il dit, on peut travailler partout, 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 pour le Seigneur, qu'il nous aide. On va prier. Seigneur, merci d'abord pour ta grâce, comme nous rappelle Éphésiens. C'est un don gratuit que tu nous as fait. Tu es allé jusqu'à la croix pour mourir, parce que nous ne pouvions pas nous sauver par nous-mêmes et parce que nous étions perdus pour l'éternité. Mais tu nous as sauvés justement de l'enfer, tu nous as donné une nouvelle vie. Et tu ne t'es pas arrêté là, Seigneur, non seulement tu nous donnes une nouvelle vie, mais tu veux que nous nous mettions à ton service. Quel honneur, comme nous l'avons dit, Seigneur, et fais-nous apprécier justement cet honneur que tu nous fais avec nos minces aptitudes, avec nos incapacités, soi-disant. Et merci parce que c'est toi qui vas nous transformer, c'est toi qui vas nous rendre aptes pour te servir au quotidien dans cette Église. Peut-être, Seigneur, que quelques-uns ne savent pas quoi faire pour toi. Et je te prie tout simplement de travailler leur cœur, peut-être au travers de la lecture de ta parole, au travers de la prière, qu'ils puissent tout simplement trouver ce que toi, tu leur as préparé d'avance pour qu'ils les pratiquent. Merci pour cette Église et fais-la travailler justement pour ta gloire et pour qu'elle puisse grandir en maturité, qu'elle puisse grandir en nombre, mais surtout pour qu'elle puisse te faire plaisir. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.